Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé il y a 2000 ans entre Marie et Élisabeth? Que s'est-il passé pour que Luc ait pris le temps de nous raconter cet épisode dans l'Évangile? C'est quand même un épisode qui peut être très banal. Vous voyez, une cousine qui va voir sa cousine pour se réjouir. Comment c'est arrivé dans l'Évangile? Comment c'est devenu parole de Dieu? Luc, il n'était pas présent. Vous savez qu'il y a quatre évangélistes, il y en a deux qui ont suivi a priori directement le Christ, Matthieu et Jean, et Marc et Luc, c'est des témoins qui sont là après coup. Luc, il le dit lui-même, il a mené une enquête. Il a reçu la foi parmi les premiers chrétiens et il a voulu enquêter pour savoir si c'était solide. Et la tradition nous dit qu'il est allé voir la Vierge Marie et qu'il a passé du temps avec elle. C'est pour ça qu'on a la joie d'avoir des récits de l'enfance de Jésus, quelques-uns, qui a priori nous avons reçu de la bouche de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui était si important pour que Marie, quand on lui pose la question « Raconte-moi ce qui s'est passé dans l'enfance avec Jésus », prenne le temps de nommer cet épisode-là précisément? Vous voyez, comment se fait-il que c'est ça, entre autres, qu'elle avait en tête? Elle a pris le temps de tout détailler. Alors bien sûr, il y a l'expérience de Marie. Il y a aussi l'Esprit Saint qui conduit toutes choses, évidemment. C'est lui qui va faire rejaillir certains souvenirs dans la mémoire de Marie. C'est lui qui va inspirer Luc pour qu'il écoute et qu'il retranscrive tout cela. Ce n'est pas juste un souvenir. C'est une étape du salut. Alors quoi? Comment est-ce qu'on peut lire ce texte? Je propose de faire un tout petit peu, ce qu'on appelle de l'exégèse, c'est-à-dire comprendre un peu les sens des mots, rassurez-vous, très léger. Mais c'est pour entrer un peu dans l'intelligence du texte. En un mot, si je vais au cœur, ici, on a le récit d'une vocation prophétique, un nouveau prophète. Et alors, petit sondage, d'après vous, de qui je parle? Grand silence. Vous avez votre réponse, chacun. Élisabeth, qui avait juste? Il y en a quelques-uns qui ont des mains timidement levées, là. C'est bien. Alors, pour vous montrer un peu qu'est-ce qui nous fait reconnaître ça, il y a tout un tas de mots qui sont typiques d'une vocation prophétique dans la Bible, en ces jours-là, etc. L'Esprit Saint qui tombe sur une personne. Qui reçoit l'Esprit Saint ici dans notre texte? Élisabeth. Alors, elle fut remplie d'Esprit Saint. Jean tressaille, et elle, remplie d'Esprit Saint, c'est bien elle. Et qu'est-ce qui se passe? Elle proclame une parole juste derrière. Là, c'est vraiment le récit typique de la vocation prophétique. Vous voyez? Une petite introduction qui nous montre que Dieu est à l'œuvre, avec des mots-clés, l'esprit qui saisit une personne et la personne qui proclame une parole qui jaillit de l'intérieur. Vous pouvez penser à Jérémie, qui est un peu la vocation prophétique par excellence, qui disait, vraiment il dit, je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais elle était au fond de moi comme un feu brûlant dans mon cœur, cette parole. Le prophète, c'est celui qui a une parole, ça déborde, il faut que ça sorte, quoi. Jean-Baptiste aussi, il est prophète. Mais là, dans notre texte, c'est la vocation prophétique d'Élisabeth. Et c'est très beau de voir que cette vocation prophétique, immédiatement, la connotation, c'est quand même d'abord la joie. Alors, c'est plus ou moins visible selon les prophètes. Mais quand même, il y a la joie. Il y a la joie. Là, aujourd'hui, c'est plus facile. Et qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? C'est certainement pas celui qui prédit l'avenir. Ça, c'est un devin, et dans la Bible, ça n'a pas bonne réputation. Dans la foi chrétienne, on ne cherche pas à connaître l'avenir, on ne fait pas de la divination. Le prophète, c'est celui qui donne une parole pour aujourd'hui, parce qu'il a compris, il voit ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et il vient révéler ce qui est caché. Il vient donner le sens de ce qui est en train de se passer. Il va saisir l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il comprend tout. Ça ne veut pas dire que sa vie n'a pas de problème. Mais lui, il n'est pas dans l'aveuglement comme d'autres. Et ça devait être la tristesse parfois du peuple de Dieu. Il y a une autre parole de Jérémie, pour vous montrer un peu ses vocations prophétiques, où il dit « Même le prophète, même le prêtre qui parcourt le pays ne comprend pas. » Là, c'est le drame. Il dit « Si même le prophète ne comprend pas ce qui se passe, alors là, vraiment, vraiment c'est dur. Vraiment, c'est dur. » Ça, c'est Jérémie 14, 18, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Bref, saisir l'œuvre de Dieu. Et on a besoin de ces personnes qui sont capables, avec une intuition de l'Esprit-Saint, de dire « voilà ce qui est en jeu ». Élisabeth, elle reçoit sa cousine. Sous ses yeux, elle a Marie. Mais Marie, elle la connaît. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous, quand on a des représentations de la Vierge Marie, on la voit couronnée d'étoiles avec la lune. Là, pensez à votre cousine. Et vous la rencontrez, c'est sympa. Il n'y a rien de merveilleux. Et pourtant, elle saisit l'enjeu de ce qui se passe. Immédiatement, elle voit qu'il y a beaucoup plus que cela, on va y revenir tout à l'heure. Mais ce qui est très beau, c'est que du coup, elle devient un signe pour Marie. Parce que rendez-vous compte, la Vierge Marie, elle avait eu la parole de l'ange. Elle avait eu la parole de l'ange qui lui a annoncé, donc elle a eu sa vision, etc., qui est un peu forte, bouleversante. Elle a dit oui, elle a cru, elle a posé un acte de foi. Puis l'ange est parti, et elle est chez elle, et la vie continue, rien n'a changé. Et c'est parfois rude un peu, d'avoir une forte expérience spirituelle et de revenir dans la vie de tous les jours derrière. Si vous avez déjà fait des retraites, c'est un peu la sensation, vous voyez. Tu es en contact avec Dieu, puis après, oh, on retombe. Mais il faut tenir ferme. Et quel signe, quelle trace elle a de tout ça? Rien. Elle en est à 3 jours de grossesse. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore très sensible en elle. Elle s'est tout de suite mise en route pour voir sa cousine. Donc pour l'instant, elle a juste le souvenir de cette parole qui lui a été donnée. Et voilà qu'Élisabeth lui lance une parole prophétique en pleine tête. Alors là, pour la Vierge Marie, c'est une confirmation immense. Immense. Elle se dit, alors oui, je le croyais déjà, on sait qu'elle avait la foi. Le texte nous le dit, heureuse celle qui a cru. Il n'y a pas de doute. Mais ça fait du bien d'avoir cette confirmation et ça va être l'exultation de joie de Marie juste derrière avec son Magnificat. Vous voyez un peu cette vocation prophétique. Elle est très belle parce que non seulement le prophète lui-même goûte la joie, mais celui qui reçoit la parole du prophète entre dans cette joie. Et ça va être l'exultation de Marie derrière. Alors, qu'est-ce qui se joue? Là, je vous dis, c'est pour comprendre un peu le contexte. Pourquoi tant de joie? Frères et sœurs, rendons-nous compte. C'est le point de jonction entre tout l'Ancien Testament et le Nouveau. Tout le plan du salut que Dieu avait mis en œuvre, avait préparé par tous les nombreux prophètes, par ses actions innombrables et ses miracles pour dire « je viendrai », toute l'espérance du peuple de Dieu, pour la première fois, une humaine est témoin que le « oui » a été donné et que le plan est en œuvre, ça y est, le salut est là. Elle a dit « oui, Marie ». Donc Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné, il y a tous les éléments. On ne se rend pas compte un petit peu de ce petit détail tout bête de la rencontre avec Élisabeth et Marie, c'est qu'il y a le « oui », c'est là où tout s'est joué, et là c'est la première fois qu'un autre être humain reconnaît en disant « ça y est, c'est accompli, c'est accompli ». Et ça aide la Vierge Marie peut-être à entrer aussi dans cette conscience de continuer « oui, c'est vraiment vrai, ce que l'ange m'a dit, c'est vraiment en train de s'accomplir ». 2000 ans d'attente, et on a 3 prophètes et le Fils de Dieu, tout petit dans le ventre de la Vierge Marie, là. Il n'y a pas grand-chose à 3 jours. Je dis ça au hasard, mais qui se réjouissent, qui exultent de joie. Vous voyez cette joie qui est incroyable. Pourtant, on ne voit rien. Ce sont 2 femmes, visiblement 2 femmes, rien d'autre. Mais elles ont tout compris. Alors, simplement une deuxième partie pour nous aider, nous, dire, ok, c'est très beau, c'est la Vierge Marie, Élisabeth, la vocation prophétique. Bon, et nous, dans cette affaire, comment recevoir ce texte? Ce n'est pas juste une indication historique, la parole de Dieu. Ce n'est pas pour nous dire, voilà ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour notre vie aujourd'hui? En quoi est-ce que ça nous interpelle? Moi, je vous propose de méditer sur Élisabeth un peu. Oui, il y a les prophètes, oui, il y a l'Esprit Saint. C'est lui qui va révéler profondément ce qui se passe. Mais Élisabeth, c'est une figure magnifique. Vous voyez, cette femme... Premièrement, elle prend le temps d'accueillir sa cousine. Le texte nous le dit en entendant les paroles de salutation. Ça peut paraître un détail, mais combien de fois est-ce que quelqu'un nous salue sans qu'on l'écoute? Ce que je souligne là-dedans, c'est qu'on voit d'emblée chez Élisabeth une vraie attention à l'autre. Sa cousine vient la voir, elle est présente à sa cousine. Elle a bien entendu ces paroles, qui sont banales, parce que probablement elle a dû lui dire « shalom » ou je ne sais pas quoi... la salutation classique, mais voilà, elle est attentive à la personne qui la visite. Elle est aussi attentive à ce qui va se passer en elle. L'enfant a tressailli. L'enfant est tressailli. Elle est capable de le noter, de dire « tiens, il s'est passé quelque chose ». elle prend le temps de s'en soucier et pas de dire « Oh tiens, il y a ça, mais oui, je passe à autre chose. » Il a tressailli. On ne sait pas l'enchaînement, en combien de temps ça a duré, mais il y a peut-être quelques secondes, elle se laisse interroger par les personnes qu'elle rencontre, au sens dérangé, la parole de salutation, l'événement qui se passe en elle. Elle prend le temps de discerner un signe du Seigneur. Élisabeth, ce n'est pas quelqu'un de passif. On voit une femme qui est très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Et l'Esprit Saint passe par là pour lui faire comprendre beaucoup plus. Elle accueille l'Esprit Saint et elle entre dans la joie. Et c'est ça qui est touchant, c'est que c'est pas elle l'élu pour le Fils de Dieu, mais c'est pas grave. Comme elle est tournée vers les autres, comme elle est tournée vers sa cousine, elle se réjouit de la joie de la Vierge Marie. Vous voyez, cette femme-là, ça faisait, on ne connaît pas son âge, mais très longtemps qu'elle n'avait pas d'enfant, et c'était une souffrance inimaginable. Ça l'est toujours aujourd'hui pour celles qui attendent, les couples qui attendent des enfants. Et en plus, à l'époque, culturellement, c'était très compliqué. C'était une honte, une infamie. Donc, dur. Et là, elle vient d'avoir cette joie de devenir enceinte, donc elle pourrait être toute tournée vers sa propre joie. Elle voit sa cousine qui arrive, elle est tournée vers la joie de sa cousine. C'est quand même touchant. Voyez un peu la finesse d'Élisabeth. Cette attention de pouvoir se réjouir de la joie de l'autre, y compris quand on peut avoir notre propre joie. Mais on aura la même chose avec la Vierge Marie derrière. Encore une fois, ce n'est pas que joie sur joie, parce qu'Élisabeth, voilà, elle est quand même âgée, elle a eu des moments pas drôles, son mari est devenu muet au passage. Alors peut-être que c'est une joie aussi, on ne sait pas, on ne dit pas. Ce que je veux dire, il ne faut pas romancer la vie d'Élisabeth. Elle a ses soucis de tous les jours. La Vierge Marie, elle va exulter aussi, mais attention, elle est dans quelle époque, la Vierge Marie? Elle a eu l'annonce de l'ange, a priori personne n'est au courant qu'elle est enceinte. Encore une fois, 3 jours, 6 jours, on ne sait pas, peu importe. Joseph, il n'a encore rien vu. Mais elle sait bien que ça va être compliqué derrière quand elle va revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Elle n'en sait rien. Et donc c'est très beau de voir la Vierge Marie et Élisabeth pas se poser trop de soucis. Elles ont des soucis dans leur vie, au sens des choses à régler. Ça ne les empêche pas de goûter la joie de l'autre. Ça ne les empêche pas de goûter la joie de l'autre. Frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, eh bien c'est un grand encouragement à savoir accueillir cette attitude, savoir découvrir, déceler la beauté de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs et se réjouir pour eux, se réjouir de ce qu'ils vivent. On va sûrement, pour beaucoup d'entre nous, avoir la joie d'être en famille. Qu'est-ce qu'on va vivre en famille? Est-ce que nous prendons le temps d'écouter ce qui se passe chez notre frère, notre sœur, notre cousin, notre cousine, peu importe, et de nous réjouir de ce qu'il y a de beau chez l'autre? D'essayer de voir aussi, même peut-être dans les moments douloureux, ce que Dieu est en train de tisser dans la vie de celle, de celui qui est à côté de moi. Ou est-ce que je vais en profiter pour vider mon sac? Une autre manière un peu de mettre ça en œuvre, la personne qui est assise à côté de vous aujourd'hui. Vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine. Hein. Ça se trouve, elle a vécu des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'elle a vécu? C'est dommage. Vous voyez, c'est un peu une question. Est-ce que nous savons profondément ce que nos frères et sœurs chrétiens vivent dans la foi? Tellement peu. Et pourtant, dès qu'on entend un témoignage, on fait « Ah bon? Ça fait 30 ans que je suis là et je ne le savais pas. » Et c'est vrai que c'est caché. On a des personnes apparemment toutes banales qui vivent des choses extraordinaires. Pour ceux qui l'ont connu, en début d'année, j'ai eu, je choisis le mot, la chance, on va dire, d'accompagner Janine dans ses derniers jours et de célébrer ses funérailles ici, très touchante. C'était la fin de sa vie. Je sais qu'elle avait témoigné. Donc peut-être que tous ne l'ont pas entendu, mais elle avait témoigné de ce qu'elle a vécu. C'est très beau de voir une femme comme ça, toute banale en apparence. Mais elle a un trésor au fond d'elle. Quand je suis arrivé à Lyon, dans ma première paroisse, séminariste, j'étais à la Rédemption, c'était le Père Tulou, séminariste qui arrive à Noël, on ne sait pas quoi lui faire faire, parce qu'il est là pour 3 jours, c'est plus une charge qu'autre chose. Donc il m'a dit, écoute, tu vas porter la communion à des dames, là, parce qu'il y en a beaucoup à Noël, tu vas la voir, tu lui donnes la communion, et après tu te tais et tu l'écoutes. C'est la consigne qu'il m'a donnée. Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, 90 ans, avec une vie incroyable, qui était des leçons de vie pour moi. Donc voilà, frères et sœurs, que ce temps de Noël soit aussi pour nous l'occasion d'entrer plus dans ce plan du salut. Le Seigneur est déjà là, il œuvre. Ce n'est plus un doute, on n'est plus en attente de quelque chose, c'est fini, Dieu est à l'œuvre. On le voit, si vous entendez les catéchumènes ou d'autres, c'est très beau de les entendre, Dieu est à l'œuvre. Eh bien, entrons de ce mouvement avec l'école d'Élisabeth, de Marie, en sachant discerner ces signes de Dieu. On ne voit rien en apparence, mais il est là, il agit, dans mon frère, dans ma sœur, pour entrer dans cette joie du salut. Chaque Eucharistie, on ne voit rien, mais il est là. Est-ce que nous arrivons à entrer dans cette douce joie, très simple, cette joie qui n'est pas brillante, ce n'est pas les paillettes, ce ne sont pas les affiches de panneaux LED de magasins qui nous attirent, qui appâtent le regard. C'est la réalité d'une présence qui est donnée. Notre Dieu est là. Amen.